Alors, on m'a demandé de diviser ces exposés en trois parties. Une première semaine, le mystère de Dieu dans l'Écriture. Une deuxième semaine, le mystère de Dieu dans les sacrements et la liturgie. Et une troisième, le mystère de Dieu chez les pères. Enfin, la deuxième ou la troisième, on peut les intervertir. Donc, je pensais consacrer l'après-midi d'aujourd'hui au mystère de Dieu dans l'Ancien Testament, demain dans les Évangiles et vendredi dans les Épîtres. Alors, tout d'abord, la méthode que je vous propose de suivre au cours de ces trois premiers. Elle est basée sur deux présupposés, qui sont d'ailleurs, je pense, les vôtres. La première, c'est que la Bible, dans son ensemble, est l'œuvre d'un seul auteur. Et que par conséquent, bien que chaque livre de la Bible ait son style, et reflète la personnalité de celui qui l'a écrit, que ce soit Isaïe ou Daniel ou Jean ou Paul, mais qu'à travers tous les livres de la Bible, c'est finalement le même souffle qui passe. Ce n'est pas un hasard si le premier livre de la Bible commence par l'histoire de la création de l'ancien monde, la Genèse, et que le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous raconte la création du nouveau monde et la fin de l'ancien. On a donc bien l'impression qu'il y a dans ce livre global une introduction, la Genèse, et une conclusion, l'Apocalypse, comme s'il s'agissait d'un même livre. Et par conséquent, si comme nous le pensons, l'auteur de toute la Bible est en fait le même Esprit de Dieu qui a parlé par les prophètes, en sorte que dans tout le livre, c'est la parole de Dieu, il en résultera que les livres de la Bible s'expliquent les uns les autres. Et que la meilleure façon de comprendre tel passage de l'Ancien Testament, c'est de le lire à la lumière du Nouveau. Et vice versa, pour comprendre tel passage du Nouveau Testament, il convient de le lire à la lumière de l'Ancien Testament. En autre mot, les différents livres de la Bible s'expliquent les uns les autres. Que c'est donc de l'intérieur de la Bible qu'on trouvera souvent la clé pour comprendre tel ou tel passage. C'est le premier supposé. Mais le deuxième présupposé, c'est que l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes a été donné depuis la Pentecôte à l'Église. Et que, c'est Saint Jean qui nous le dit, si l'Esprit de vérité nous communique ce qu'il reçoit du Christ, cet Esprit de vérité qui habite l'Église nous aide à comprendre l'Écriture sainte. C'est-à-dire, si l'Ancien Testament doit se lire à la lumière du Nouveau Testament, il doit aussi être éclairé par toute la tradition de l'Église. La tradition de l'Église, c'est finalement la parole de Dieu vécue dans l'Église par le Saint-Esprit. Et par conséquent, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la vie d'Église, ça forme un tout. en sorte que ce qui nous est révélé en Christ a été préfiguré, annoncé à l'avance, ébauché, dessiné dans l'Ancien Testament et se trouve ensuite rendu actuel, vivant, réel pour nous dans le mystère de l'Église. Voyez, voilà les deux présupposés qui nous guideront, si vous voulez bien, dans l'étude du mystère de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que nous ne cesserons de lire les textes de l'Ancien Testament en tenant compte du Nouveau et en tenant compte de la vie d'Église. Et de même, lorsque nous étudierons le Nouveau Testament, nous tiendrons compte de l'éclairage de l'Ancien et de la vie d'Église. Et lorsque nous étudierons la liturgie ou les Pères, nous tiendrons évidemment compte de l'Ancien Testament et du Nouveau. Tout cela ne fait qu'un tout d'Abraham à nos jours. L'Église est une. Voilà pour la méthode. Alors là, attaquons, si vous le voulez bien, notre sujet, le mystère de Dieu dans l'Ancien Testament. Et commençons par le début, par la Genèse, et par les deux premiers chapitres du livre de la Genèse. Vous savez que la Bible commence par la phrase suivante. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Alors, pour appliquer la méthode dont nous parlions tout à l'heure, je crois qu'un chrétien ne peut pas lire cette phrase sans l'éclairer par le prologue de l'évangile de Jean. Il est évident que lorsque Jean commence son évangile par les deux mêmes mots que le livre de la Genèse, et qu'il dit « au début était la parole » ou le verbe ou le logos, il est évident qu'il pense à la Genèse. Et quand il continue en disant « et tout a été créé par lui, par le Verbe, par le Logos, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui », il s'agit manifestement d'un commentaire johannique des premiers versets de la Genèse. Et lorsque, par conséquent, pour revenir à la Genèse, le texte nous dit « et Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut » et tout le récit de la création, Dieu dit. Lorsque par conséquent la Genèse nous raconte que le monde a été créé chaque fois par une parole de Dieu, par Dieu qui parle, les chrétiens, nous ne pouvons pas ne pas penser que cette parole, c'est quelqu'un, et que c'est la personne du Logos, la personne du Fils. Donc vous voyez que dès les premiers versets de la Genèse, nous voyons apparaître la parole, le Logos, le Fils. Évidemment, il s'agit d'une lecture chrétienne des textes. Et lorsqu'ensuite, dans ce même verset, il nous est dit « et l'Esprit de Dieu » planer sur les eaux. Et bien aussitôt, toute une série d'images va venir à l'esprit du lecteur familiarisé avec la Bible. L'Esprit de Dieu planer sur les eaux, nous penserons au déluge et nous penserons à la colombe sortant de l'arche qui représente l'Église et qui va planer sur les eaux. Nous penserons à un passage du Deutéronome. Je crois que c'est qui donne la référence. Pas la référence. Je crois que c'est au chapitre 32 du Deutéronome où il nous est dit comme l'aigle planait sur ses petits. Je crois que c'est dans le Deutéronome, je vais trouver le verset exact, 32, je crois que c'est le verset 6, je vais le trouver. Comment ?
11.
C'est ça. Il plane au-dessus de ses petits. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est conçu en quelque sorte comme une maternité qui fait surgir la vie, comme un oiseau qui couve ses œufs en sorte que la vie en sorte. Et vous retrouvez cette même idée dans la première épître de saint Pierre. Au chapitre 3, verset 18, lorsqu'à propos de la résurrection du Christ, saint Pierre nous dit « Dieu a rendu le Christ à la vie par l'Esprit ». Vous voyez que l'Esprit est vivificateur. Et cet Esprit qui plane sur les eaux, nous le retrouverons au moment du baptême de Jésus, lorsque la colombe que nous avions vu sortir de l'arche au moment du déluge, va descendre sur Jésus pour le manifester comme Christ au moment de son baptême. Donc je crois qu'il n'est pas abusif pour un chrétien de voir en l'Esprit qui plane sur les eaux dans le premier verset de la Genèse, l'Esprit Saint. Et le mot employé dans le texte hébreu est « rua ». Or, ce même mot servira à désigner au chapitre 3 de la Genèse la brise ou le souffle du jour où Dieu se promenait lorsqu'il viendra questionner Adam et Ève après la chute. L'Esprit de Dieu est cet environnement divin dans lequel vivait l'homme avant sa chute. Il communiquait librement avec Dieu parce qu'il baignait dans le souffle de l'Esprit de Dieu. Vous voyez donc que je crois que l'on peut très bien discerner dès les premiers chapitres de la Genèse le mystère du Dieu trinitaire. Et c'est pourquoi les pères ont toujours vu, dans le verset 26 du premier chapitre de la Genèse, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », ce pluriel « faisons », une allusion à l'œuvre de la Trinité. Dieu crée donc le ciel et la terre à partir de rien, en se servant de sa parole et de son esprit, de son Fils et de son Saint-Esprit, qui nous apparaissent donc dès le début, pour citer saint Irénée, comme les deux mains du Père. Le Fils et le Saint-Esprit, la parole et le souffle, comme étant les deux mains dont le Père se sert pour créer le monde. Voyez donc que dès que la Bible s'ouvre, nous entrons dans le mystère du Dieu trinitaire. Les pères aiment bien, ce n'est qu'une image, comparer le Père à la bouche, le Fils à la parole et l'Esprit au souffle qui porte la parole. La parole et le souffle sortent de la bouche et c'est le souffle qui fait venir la parole jusqu'à nous. Et c'est la parole qui exprime ce qui se cache dans la tête. Bouche, souffle, parole. Plutôt bouche, parole, souffle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous les voyons apparaître dès le premier verset de la Genèse. Et puis, nous allons les retrouver au chapitre 18 de la Genèse, dans l'histoire d'Abraham. Abraham est vraiment une personnalité extraordinaire. Je suis toujours surpris que dans les écoles, Abraham et Moïse tiennent une si petite place. Il me semble qu'Abraham, Moïse et Paul sont trois hommes qui ont vraiment forgé l'histoire de l'univers. Mais là n'est pas notre propos. Vous vous souvenez que lorsque Abraham se trouve sous le chêne de Mambré, Abraham vieux, avec sa vieille femme Sarah de 80 ans qui est dans la tente derrière lui, se présente à lui trois jeunes gens. Au verset 2 du chapitre 18, il nous est dit trois hommes. Et puis au verset 10, il nous est dit le Seigneur reprit, je dois revenir. Alors, il y a trois hommes, et quand il parle, c'est le contraire du premier chapitre de la Genèse. Le premier chapitre de la Genèse, il y avait un seul Dieu qui disait « faisons ». Et maintenant, nous avons trois hommes qui disent « je ». « Je dois revenir ». Ces trois hommes parlent de la part de Dieu. Les trois messagers, les trois anges de la Genèse, représentent donc le Dieu unique. Et vous savez que la tradition d'Église a toujours vu dans ces trois jeunes gens la préfiguration du mystère trinitaire. Et dans l'histoire de l'iconographie, il y avait déjà une icône byzantine qui s'appelait l'hospitalité d'Abraham, qui représentait ces trois jeunes gens assis à table pendant que Abraham et Sarah leur servaient à manger. On voyait une table encombrée de mets divers avec des couverts et on voyait le vieil Abraham et Sarah en train de servir à manger aux trois anges avec dans l'arrière-plan le chêne de Mambré et une tente qui servait à Abraham et à Sarah. Et le génie de l'iconographe russe Roubliev fut de simplifier cette icône pour n'en garder que l'essentiel, la préfiguration de la Trinité. Vous avez là un exemple de ce qu'est la tradition. La phrase est d'Olivier Clément, la création dans la fidélité. Il y a une fidélité à la tradition, la représentation de l'hospitalité d'Abraham, mais il y a une création dans cette simplification. La préfiguration de la Trinité va apparaître d'une façon très frappante. J'aimerais vous montrer l'icône. Je crois que j'ai vu que les sœurs à côté avaient les bibles. Je peux peut-être la décrocher. Alors, vous voyez que la table n'a plus qu'une coupe. La table où Abraham et Sarah servaient le repas est devenue un autel, une table eucharistique. La coupe est devenue le calice. Et Nos trois anges maintenant sont devenus nettement des symboles trinitaires. Remarquez d'abord l'unité divine. Voyez que les trois jeunes gens s'inscrivent dans un cercle parfait, un seul cercle, un seul Dieu. Remarquez que leurs ailes, et ça paraît davantage sur l'original, je crois, leurs ailes dorées donnent ce fond doré, ce fond de feu, ce fond de lumière qui représente l'être divin, l'unité de l'être, un seul Dieu, un seul cercle, un seul feu. Mais en même temps, il n'y a pas immobilité. Il y a dans ce cercle un mouvement. Vous voyez bien que le mouvement va manifestement dans ce sens, comme ceci. Hein? Alors, qui sont représentés par ces trois anges? Bien, nous avons des points de repère. Vous voyez que celui-ci est vêtu d'une part d'un vêtement en couleur de terre, et d'autre part d'un vêtement couvert de ciel, de nature. Donc cet ange doit représenter le Fils. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il montre la coupe eucharistique avec deux doigts qui représentent les deux natures du Fils. Ici, nous voyons également le bleu du ciel, le bleu de la divinité. Mais nous voyons également le vert du printemps, le vert de l'espérance. Donc, nous pouvons bien supposer que cet ange-ci représente le Saint-Esprit. Et celui-ci, dont les vêtements, au contraire, sont assez flous, presque invisibles, doit représenter le Père. Et c'est pourquoi vous voyez cette tête-ci assez droite, tandis que les deux autres regardent vers lui, car le Père est la source de la divinité. La monarchie du Père est une idée que vous retrouvez souvent chez les Pères. Nous aurons l'occasion d'en parler la troisième semaine quand nous parlerons de Saint Basile. Donc vous voyez dans l'ordre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais représentés d'une façon ô combien respectueuse du mystère divin. Vous remarquez que les trois visages sont les mêmes, car l'être divin est le même, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont toujours le même contenu. Et saint Paul ne nous dit-il pas que le Fils est l'image parfaite du Père? Nous ne pouvons donc jamais ni représenter le Père, car le Père est un pur esprit, mais ni le représenter avec un visage autre que celui du Fils. Donc finalement, nous ne pouvons représenter Dieu que d'une façon purement symbolique, en représentant une scène biblique, trois jeunes gens, trois anges qui rendent visite à Abraham. Vous voyez que le mystère divin est conservé dans ce Dieu un en trois personnes. Vous voyez le chêne de Mambrai, mais le chêne de Mambrai maintenant plonge ses racines dans l'autel eucharistique. C'est l'arbre de vie auquel Adam et Ève n'auront plus accès après qu'ils auront mangé du fruit défendu. C'est l'arbre de vie auquel l'homme retrouvera accès par le bois de la croix. Et ici, dans l'ombre, la tente où se cachait Sarah commence déjà à être l'Église. Donc, vous voyez, je crois que cette icône nous sert à pressentir le mystère divin, irreprésentable, le mystère du Dieu unique en trois personnes, trois jeunes gens qui cependant disent « je », car ils ne sont qu'un seul Dieu. Alors, ceux qui voudraient étudier ça plus en détail, vous avez deux commentaires de cette icône. L'un, à mon avis, le meilleur, dans un livre que vous trouverez très difficilement, un livre d'Ouspensky. Et l'autre, dans le livre d'Evdokimov, La beauté, attendez, comment il s'appelle, L'art de la beauté. Mais Evdokimov est moins rigoureux. Et Evdokimov situe l'ange du milieu comme étant le Père. Je crois qu'il se trompe parce que Ouspensky, qui est un iconographe, a suivi les origines de cette icône. Et je crois que c'est lui qui a raison. Enfin, là, nous sortons un peu de notre sujet. Alors, passons, si vous voulez, un peu plus loin dans la Bible, à Jacob, le petit-fils d'Abraham. Vous vous souvenez que le petit-fils d'Abraham, dans le désert, s'endort sa tête sur une pierre, et que dans son sommeil, il a une vision. C'est dans le 28e chapitre de la Genèse, versets 10 à 15. Et il voit une échelle qui descend du ciel jusque sur terre, jusqu'à son côté. Jusqu'à son côté, c'est important parce que c'est du côté d'Abraham, de Jacob. Jacob qui recevra par la suite le nom d'Israël quand il aura lutté avec l'ange, qui sera donc le père des 12 Israélites, qui sera donc l'ancêtre du peuple juif, l'ancêtre de la maison de Jacob, et l'ancêtre de celui, nous dira l'ange Gabriel, qui régnera sur la maison de Jacob, c'est-à-dire l'ancêtre du Christ. Or, cette échelle fait joint le ciel et la terre, et les anges de Dieu montent et descendent sur cette échelle. Et dans le texte, non pas dans le texte hébreu, mais dans le texte des Septante, la traduction est légèrement différente. Nous prenons, si vous voulez, le chapitre 28 de la Genèse. Jacob fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passa la nuit. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Et le verset 13 dit dans la version hébreu, voici que le Seigneur se tenait près de lui. Mais le texte grec des Septante dit « Le Seigneur s'appuyait sur elle, sur l'échelle. » C'est-à-dire que dans la version des Septante, le Seigneur se trouve en quelque sorte au haut de l'échelle, prêt à descendre. Vous voyez donc beaucoup plus clairement que la vision figure le Fils de Dieu prêt à descendre sur terre par cette échelle pour réunir le ciel et la terre. Et dans l'hymne acatiste, qui est un cantique que les orthodoxes ont coutume de chanter à la Sainte Vierge les vendredis de carême, la Vierge est comparée à l'échelle de Jacob. C'est la Vierge Marie qui sera l'échelle dont le Fils de Dieu se servira pour descendre sur terre. Mais les anges descendent et montent de l'échelle. Le Fils de Dieu descendra sur terre pour qu'à leur tour les hommes puissent monter dans le royaume de Dieu. Le but de l'incarnation sera l'ascension de la nature humaine. Le Fils de Dieu s'est fait homme, nous dira saint Athanase. La phrase est un peu forte. Pour que les hommes deviennent Dieu. Hein? Pour que les hommes soient en quelque sorte déifiés. Car la nature humaine va être déifiée par la présence du Verbe divin en elle. La chair du Christ va devenir une chair divine. Et par conséquent, cette échelle qui sert au Fils de Dieu pour descendre sur terre, va servir à ses disciples pour monter vers le royaume. La Vierge Échelle, elle aussi servira dans les deux sens. Elle sert à l'incarnation.
Il y a deux icônes de l'échelle de Jacob. Il y en a une qui est réaliste, où l'on voit simplement les anges qui montent et qui descendent, et où on aperçoit quelqu'un prêt à descendre de l'échelle avec Jacob étendu en bas. Mais il y en a une autre plus naïve, qui est inspirée un peu d'un livre dont vous avez peut-être entendu parler, l'échelle de Saint Jean Climac, où on voit les saints qui essayent de gravir l'échelle. Et vous en avez certains qui sont déjà presque au haut de l'échelle. Et puis vous avez des petits démons fourchus qui sont en train, avec des crochets, d'essayer d'accrocher ces saints pour les empêcher de monter et pour les faire tomber dans l'abîme. Hein? Alors là, c'est tout de même en même temps une image du combat chrétien. Nous devons gravir l'échelle vers le royaume en nous méfiant tout de même, en étant prudents, pour que le malin ne nous empêche pas de gravir progressivement l'échelle. J'aurai l'occasion de vous montrer ces diapos un de ces jours. Voilà pour l'échelle de Jacob. Vous voyez que tout cela peut être évidemment beaucoup approfondi. Je vous donne chaque fois les références, donc quand vous aurez le temps, vous pourrez peut-être relire ces textes et y découvrir encore bien plus. Vous savez que la Bible, on n'a jamais fini de l'approfondir et d'y découvrir toute la profondeur, toute la hauteur, toute la largeur du mystère divin. Alors passons, si vous voulez, à Moïse, au grand Moïse. Et en particulier à l'appel de Moïse. Vous vous souvenez que Moïse était le berger de son beau-père. Oui, c'est le chapitre 14, le chapitre 3 de l'Exode. Le chapitre 3 de l'Exode, au verset 14. Il était le berger de son beau-père, et un jour qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-père, il aperçoit un buisson qui brûle. Et quand il s'approche de ce buisson, il constate que le buisson brûle sans se consumer. Le buisson est en quelque sorte incandescent. Et il fait le tour du buisson et il entend du buisson une voix qui l'appelle. Qui es-tu, Seigneur ? Dit Moïse. Et la voix répond : Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ôte tes sandales, car le sol que tu foules est saint. Et puis Dieu, du fond du buisson, va parler à Moïse et va lui donner sa mission. Il dira : J'ai entendu le cri de détresse de mon peuple Israël, et je t'envoie vers lui pour le faire sortir de la terre d'esclavage d'Égypte. Et Moïse est effrayé par cette mission qu'on lui donne, et il dit : Mais mon peuple ne me croira pas, et il me demandera ton nom. Quel est ton nom ? Et la voix répond. Alors je crois qu'ici nous sommes au centre du mystère divin. La voix répond dans le texte hébreu par quatre lettres qu'on traduit d'habitude par YHWH. YHWH, le fameux tétragramme, qu'on peut traduire de trois façons. On prononce en général, car on ne peut pas prononcer des consonnes sans voyelles, on le prononce en général Yahvé. Il y a trois façons de le traduire, ce terme. On peut traduire
je suis qui je suis. En d'autres mots, tu veux connaître mon nom, mais je n'ai pas de nom. Je suis innommable, car enfin, on ne peut nommer que des choses que l'on connaît. Je peux dire que ceci est un micro parce que j'ai déjà vu d'autres micros. Hein? Je peux dire que ceci est une table parce que j'ai déjà vu d'autres tables. Mais si je voyais quelque chose que je voyais pour la première fois et qui ne ressemblait à rien de ce que j'ai jamais vu, je ne pourrais pas le nommer. Dieu est celui qui est radicalement autre. Il est qui il est. Voilà son nom. Je suis qui je suis. En d'autre mot, je suis différent de tout ce que tu connais. Je suis l'autre, l'inconnaissable, l'innommable. Je suis qui je suis. Voilà mon nom. C'est une interprétation. Il y en a une seconde qui n'est nullement contradictoire. Le texte des Septante traduit le terme Yahvé par deux mots grecs, O, On, l'étant, celui qui est. En autre mot, cette interprétation-là signifierait, elle est un peu platonique, signifierait que Dieu se définit comme l'être par excellence, comme celui de qui toute créature tient son être et sa substance. Tout être est en Dieu. Il n'y a de véritablement être que celui qui est. Ah. Je suis qui je suis, je suis. Je suis celui qui est. Non pas je suis qui je suis, mais je suis celui qui est. Vous voyez que c'est une traduction différente, mais qui finalement n'est pas contradictoire. Et puis, il y a, enfin, la source de l'être. Et puis, il y a une troisième traduction. Il paraît, moi, je ne connais pas l'hébreu, il paraît qu'en hébreu, le « je suis qui je suis » peut se traduire par un présent, mais peut se traduire aussi par un futur. Et alors, ceci se traduirait « je suis qui je serai ». Je suis qui je serai. En d'autres mots, je suis celui qui va se manifester. Je suis celui dont l'action va se déployer à travers l'histoire. Et cela rejoint la définition de l'Apocalypse, celui qui est, qui était et qui sera. Vous voyez que ces trois interprétations, qui apparemment linguistiquement sont possibles, ne se contredisent nullement. Et elles soulignent tour à tour l'inconnaissable de Dieu, radicalement et absolument différent à tout ce qui tombe sur le sens. Deuxièmement, le fait que Dieu est l'être par excellence et la source de tout être, celui qui est. Et troisièmement, son éternité à travers l'histoire, celui qui était, qui est et qui vient et qui reviendra. Voilà pour le terme, Yahvé. Mais prenons maintenant l'aspect sous lequel il se présente. Il se présente au milieu d'une flamme, au milieu d'un buisson qui brûle. Nous retrouvons tout à l'heure l'apparition de Dieu dans l'Exode sous l'aspect d'un feu dévorant. Alors ici de nouveau l'hymne akkadiste va nous servir. Je vous rappelle que l'hymne akkadiste est un hymne à la Vierge que nous chantons en carême. Et si dans cet hymne, la Vierge est appelée l'échelle de Jacob, elle est aussi appelée le buisson ardent. car dans la Vierge Marie a habité le feu divin sans qu'elle soit consumée. De même que le buisson ardent était porteur du feu de la divinité sans brûler, de même la Vierge Marie a porté en son sein le feu de la divinité sans être consumée, sans être brûlée. Et je vous citerai ici une phrase que m'a dite une jeune fille croyante l'an dernier au cours d'un congrès de jeunesse que nous avions à Avignon, qui m'a beaucoup frappé. Elle m'a dit, mais si je pouvais vraiment me rendre compte que Marie a porté Dieu dans son ventre, c'est bouleversant. Et c'est ça le mystère de l'incarnation dans le ventre d'une femme. Le Dieu infini. Dieu tout entier. Dieu dans sa plénitude. Le Dieu qui ne peut être contenu nulle part et en rien. Habitant le corps d'un être humain. C'est bouleversant. Là aussi, l'iconographie peut nous aider. Il y a une icône russe, celle-là aussi, qui s'appelle la Vierge du Cygne. On l'appelle la Vierge du Cygne par une allusion au signe d'Isaïe. Vous savez qu'il est donné à Isaïe un signe, le signe de l'Emmanuel. Voici que la Vierge enfante. Son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous. Et alors cette Vierge, dite Vierge de la Cygne, du Cygne, représente la Vierge Marie avec ici en son sein un cercle. Un cercle en forme et en couleur de soleil. Et au milieu de ce soleil, qui représente le feu de la divinité, un enfant qui trône. Ce n'est pas du tout la radiographie d'un fœtus. C'est Dieu qui habite en son sein. C'est le feu dans le buisson. Mais il y aurait encore bien plus à dire là-dessus. Un grand-père de l'Église, Saint Grégoire Palamas, qui vivait au XIVe siècle, et qui prit la défense des moines de Latos, dont on se moquait à l'époque, parce que ils disaient, ou plutôt on disait d'eux, qu'ils avaient vu et qu'ils voyaient la lumière divine. Et si vous en dites quelque chose de difficile, mais qui est très important, je crois. Alors, on reprocha, en particulier un certain Barlaam, reprocha aux moines de Latos d'être des hérétiques, parce qu'il leur dit « Dieu est inaccessible, et par conséquent, vous ne pouvez pas voir Dieu. On ne peut voir Dieu et vivre. » Et saint Jean nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Alors comment pouvez-vous prétendre voir la lumière divine? Vous blasphémez, vous êtes hérétique. Et saint Grégoire, dans un livre célèbre qui s'appelle La défense des saints hésicastes, prendra leur défense en disant oui, Dieu est inaccessible, est absolument inaccessible dans son être. Mais il se communique lui-même dans ses énergies, dans son rayonnement, dans sa gloire. Et si Moïse n'a jamais pu voir Dieu, il a vu
dans le buisson ardent la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Et par conséquent, dit-il, le feu du buisson ardent, c'est une lumière immatérielle, c'est le rayonnement même de la divinité. Dieu, inaccessible dans son être, nous transmet son rayonnement, sa grâce. La grâce n'est pas donc quelque chose, n'est pas un effet créé, mais est le rayonnement même incréé de Dieu, en sorte que Dieu, dans ses énergies, se communique. Il est possible en Christ, qui nous donne le Saint-Esprit, de communiquer avec Dieu. Et je crois que ceci, il est particulièrement important de le dire à des religieuses. Il est possible à l'être humain, non pas de voir Dieu, mais de voir la gloire de Dieu. Le Fils de Dieu, en se faisant homme, a relié le ciel et la terre, a relié Dieu à l'homme. Et l'homme n'est plus coupé de Dieu. Il peut communiquer avec Dieu, il peut recevoir dans le Saint-Esprit la présence même de Dieu. La grâce, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est la personne même du Saint-Esprit qui se donne à nous et qui se communique à nous. Et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Moïse, le grand Moïse, quand il se rendait dans la tente de la rencontre et qu'il en sortait, c'est au chapitre 34 de l'Exode et au verset 29, sa peau, nous dit l'Exode, était rayonnante. Et il couvrait son visage d'un voile. Sa peau était rayonnante. La lumière de la divinité qu'il voyait dans son face-à-face avec Dieu se communiquait à sa chair. Et saint Paul nous dira dans la deuxième épître aux Corinthiens que pour nous, le voile a été levé. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce texte. Le voile a été levé en Christ. Le Saint-Esprit de Dieu nous sera donné. Nous retrouverons cette même idée dans l'Exode au chapitre 33. Lorsque Moïse demande à Dieu: fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui répond: personne ne peut me voir, personne ne peut voir ma face, et vivre. Tu ne peux voir ma face. Et lorsque Moïse insiste, Dieu cache Moïse dans le creux du rocher. Et il lui dit: tu me verras de dos. Au verset 22 du chapitre 33 de l'Exode. Et Dieu passe et Moïse le voit de dos. Qu'est-ce que ça signifie de nouveau? Que Moïse ne peut voir l'être de Dieu, mais cependant il peut voir la gloire de Dieu. De même que Pierre, Jacques et Jean ont vu la lumière incréée de la divinité rayonnant sur le visage de Jésus. Et cette lumière n'était pas la lumière du soleil, mais la lumière du Dieu se cachant en Jésus et se manifestant aux trois apôtres. De même, Moïse, dans le buisson ardent, voit non pas un feu matériel, car alors le buisson se serait consumé, mais le feu immatériel de la gloire, de la divinité, qui rendra sa peau rayonnante de la grâce divine. Et c'est pourquoi vous voyez au chapitre 19 de l'Exode, au verset 18, lorsque Dieu apparaît sur le Sinaï, il nous est dit de nouveau, Dieu y était descendu dans le feu. Et au chapitre 24, verset 17, la gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël sous l'aspect d'un feu dévorant. C'est peut-être plus qu'une image. C'est déjà la gloire de Dieu qui se manifeste. Alors, vous voyez, tous ces chapitres de l'Exode, chapitres 19, 24, 33, peuvent être, je crois, l'objet de très longues et très belles méditations sur la gloire de Dieu. Je vous rappelle également que la nuée qui précède le peuple d'Israël pendant la sortie d'Égypte, qui apparaît pendant la journée comme une colonne de fumée, et la nuit comme une colonne de feu, qui leur montre le chemin et qui les protège, puisque lorsque les armées de Pharaon rattraperont le peuple juif, la nuée tournera et empêchera les Égyptiens d'atteindre le peuple de Dieu. Les pères ont vu dans cette nuée le Saint-Esprit conduisant son peuple vers le baptême de la mer Rouge et vers la terre promise. Vous voyez donc que de nouveau dans le livre de l'Exode, nous apercevons, nous entrevoyons le mystère divin du Dieu inaccessible, mais du Dieu qui va se communiquer par son Esprit Saint lorsque le Fils apportera l'Esprit au monde, car l'Esprit n'était pas encore venu, nous dira Saint Jean dans son évangile. Passons, si vous voulez, maintenant au prophète Élie. C'est dans le livre des Rois, dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, versets 1 à 13. Vous vous souvenez que Jézabel, la reine, persécute le prophète Élie et qu'il est obligé de fuir et qu'il se réfugiera justement à l'Horeb. Le mont Horeb est apparemment un autre nom du Sinaï. Et là, il se réfugiera dans la grotte, probablement le lieu même où Moïse avait vu le buisson ardent. Et là, je crois qu'il faut lire le passage. Donc, le premier livre des Rois, au chapitre 19, et à partir du verset 1. Ou plutôt, à partir du verset 11, j'aime beaucoup raconter ce passage aux enfants du catéchisme. Je trouve qu'il est magnifique, ce passage. Le Seigneur dit à Élie, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu.
Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Vous voyez, Dieu n'est ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Mais il est dans le petit bruissement de la brise, dans le souffle tenu, dans l'esprit qui ne fait pas de bruit et que l'on n'entend que dans le silence. Mais dans le silence, on peut l'entendre. Voilà de nouveau Dieu qui se manifeste. Dieu qui peut se manifester aux croyants dans le silence de la méditation et de la prière, comme un bruissement tenu, un souffle. Dieu ne crie pas. Dieu n'aime pas le bruit. Dieu se fait entendre dans le silence. Et n'est-ce pas justement votre vocation ? D'être celles qui, tout en étant dans le monde, savent fuir le bruit et n'ont pas peur de se retrouver seules avec elles-mêmes pour écouter la parole de Dieu. Le monde moderne est un monde qui a peur de la solitude. Remarquez les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'ils sont seuls dans leur chambre, ils vont allumer le poste ou la télé, ou alors ils mettront sur leurs oreilles, c'est, vous voyez, pour entendre une cassette. Il faut qu'il y ait du bruit. Il ne faut surtout pas se retrouver dans le silence, seul avec soi-même. Il faut au contraire, vous chercherez à vous retrouver seul avec vous-même pour entendre le bruissement tenu de l'esprit. Il parle.
Tout d'abord, une omission de tout à l'heure, lorsque nous parlions du buisson ardent, je suis qui je suis, il convenait, je crois, de citer une parole du Seigneur Jésus, lorsque, je crois que c'est au verset 56 ou 58, du chapitre 8 de l'évangile de Jean. Jésus dit, à propos d'Abraham, il a vu ce jour et il a exulté. Et les Juifs lui disent, comment, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Et Jésus répond, avant qu'Abraham ne fût, Yahvé. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et ses auditeurs ont compris, puisqu'à ce moment-là, ils ont pris des pierres pour le lapider. Ils ont compris qu'en disant « Avant qu'Abraham ne fût, je suis », ils s'identifiaient avec le Dieu innommable. Il n'y a peut-être pas d'affirmation, sauf après la résurrection, aussi catégorique dans la bouche de Jésus de sa propre divinité que cette phrase-là. Bon, et bien tout à l'heure, nous avions parlé d'Élie et je m'apprêtais à aborder Isaïe. Je pense aux 9 premiers versets du chapitre 6 du livre d'Isaïe, qui nous raconte l'appel du prophète. Il était dans le temple et il a une vision. Et il voit comme un manteau qui remplit le temple tout entier. Ce manteau qui symbolise la gloire royale de Dieu. Et
entend une multitude d'anges, de séraphins. Je crois qu'en hébreu, ça veut dire des êtres de feu, qui chantent sans cesse, d'une façon continue, Saint, 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 et le Seigneur Sabaoth. Et alors le prophète dit, malheur à moi, qui suis un homme pécheur, à la bouche de pécheur, et j'ai vu la gloire de Dieu. Et l'ordre lui vient d'annoncer la parole de Dieu. Et il proteste, comment puis-je, moi qui suis un homme aux lèvres impures? Et alors l'un des séraphins, avec une pincette, prend un charbon ardent sur l'autel et la pose sur sa bouche en lui disant, sois pur. Et à partir de là, Isaïe va devenir prophète. Alors je crois que là, il y a deux remarques à faire. Tout d'abord, ce chant. Vous avez évidemment reconnu le chant du Sanctus que nous retrouvons dans toutes les liturgies chrétiennes depuis la plus haute antiquité. Sauf, je crois, dans la liturgie d'Hippolyte, je ne crois pas qu'il y ait une seule autre exception où ce Sanctus, ce Saint, 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 ne se retrouve pas. Le Dieu trois fois Saint, il est évident que toute la tradition chrétienne a toujours vu là une première révélation du Dieu trinitaire. Et ce chant a passé dans la vie de l'Église d'une façon assez étrange. Vous remarquerez qu'il est repris dans la vision de Jean dans l'Apocalypse au chapitre 4, versets 7 et 8. Mais dans l'Apocalypse, ce ne sont plus les séraphins qui chantent le Saint, 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 mais les chérubins. Les chérubins, et là, la vision de l'Apocalypse s'est influencée manifestement par le livre d'Ézéchiel, chapitre 1 et chapitre 10. Dans Ézéchiel, vous vous souvenez, il y a des vivants, des chérubins, qui ont quatre faces, l'une ayant un aspect d'homme, l'autre un visage d'aigle, l'autre de lion et l'autre de taureau. Et dans l'Apocalypse, le Saint, Saint, Saint des séraphins d'Isaïe est chanté par les chérubins d'Ézéchiel, par les quatre vivants, ayant respectivement un visage d'homme, d'aigle, de taureau et de lion. Or, dans les liturgies, ce sont effectivement les chérubins qui chantent le Sanctus, les séraphins et les chérubins. En sorte que manifestement, le Sanctus nous est venu de l'Apocalypse. Il ne nous est pas venu directement d'Isaïe, car s'il était venu directement d'Isaïe, on ne parlerait pas de chérubins. Donc il nous est venu par le détour de l'Apocalypse. Et on le retrouve dans l'iconographie. On retrouve les séraphins aux six ailes. Les six ailes couvrent Dieu, dont deux recouvrent le visage, deux les jambes et deux avec lesquels ils volent. Dans l'architecture byzantine, dans les quatre coins qui soutiennent la coupole des églises byzantines, qui soutiennent le trône du Christ. Sur la coupole, il y a le Pantocrator, et dans les quatre coins, il y a les séraphins qui chantent le trois fois saint, le Trisagion, en sorte que l'iconographie et l'architecture viennent se joindre à l'hymnographie pour chanter éternellement à Dieu l'hymne trois fois saint, 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 le Seigneur Sabaoth. La doxologie trinitaire qui est finalement au centre de toute liturgie. Donc vous voyez que c'est nettement de nouveau dans le prophète Isaïe que nous est révélé le mystère du Dieu trinitaire. Et que cette révélation continue à nourrir la louange de l'Église jusqu'à nos jours. Nous allons retrouver le mystère divin dans au moins deux passages du livre de Daniel. Au chapitre 3, au verset 51, à partir du verset 51, nous avons le récit des trois enfants dans la fournaise. Vous connaissez, je pense, tout le récit. Le roi Nabucodonosor avait dressé une immense statue et il avait donné ordre à tous les notables de son empire, au moment où sonneraient les cors et la lyre et les instruments de musique, de s'agenouiller, de se prosterner devant la statue qu'il avait érigée, en menaçant tous ceux qui ne le feraient pas d'être jetés dans la fournaise de feu. Or voilà que trois jeunes gens, je crois que c'est Misrach, Nak et Abdelnago, restent debout en refusant d'adorer l'idole. Et alors on les fait comparaître devant Nabucodonosor, qui se met dans une grande colère, et parce que eux n'hésitent pas devant l'empereur à refuser de s'agenouiller devant la statue. Et alors il les jette dans la fournaise de feu, après les avoir ligotés. Or, ils sont trois dans la fournaise de feu. Et au verset 51, il nous est dit, tous trois, d'une seule voix, chantent la louange de Dieu. Il y a là ce très beau cantique, louer le Seigneur, qu'il n'y a d'ailleurs que dans la version grecque de la Bible, et que nous nous retrouvons dans de nombreux offices de l'Église, ce chant de louange, neige et grêle, louer le Seigneur, etc. Et bien là, de nouveau, c'est l'immacatiste, dont nous avons eu déjà deux fois l'occasion de parler, qui fait le rapprochement, et qui nous dit que la Trinité a été manifestée d'une façon évidente dans l'épisode des trois enfants dans la fournaise, le feu représentant l'être divin et les trois enfants chantant d'une seule voix les personnes divines. Dans le même livre de Daniel, au chapitre 7 et au verset 9, nous avons également une vision très importante, je crois, très importante parce qu'elle sera citée par le Christ lui-même devant Caïphe, au moment de son jugement. Et c'est en citant ce passage qu'il sera accusé de blasphème et condamné à mort. Donc vous voyez que le passage est important. C'est justement celui où il est question du Fils de l'homme, qui est le titre que Jésus aime le plus se donner. Alors, Daniel, chapitre 3, à partir du verset 9. Ah non, pardon, ça c'est l'hymne des trois enfants. Chapitre 7. Chapitre 7, verset 9. Voilà. Je regardais dans les visions de la nuit. Non, il faudrait commencer au verset 9, pas au verset 13. Pardon, au verset 9. Je regardais lorsque des trônes furent installés et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, la chevelure de sa tête comme de la laine nettoyée. Son trône était en flamme de feu avec des roues en feu ardent, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 myriades se tenaient devant lui. Donc manifestement, le vieillard représente et symbolise Dieu le Père. Et puis au verset 13, je regardais dans la vision de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle. La phrase est citée par l'ange Gabriel à la Vierge Marie, et son règne n'aura point de fin. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui n'aura point de fin. Luc 1, 33. Donc, vous voyez que dans ce texte est donc cité deux fois. Une fois par Gabriel à la Vierge Marie, lorsqu'elle lui annonce que celui qu'elle mettra au monde sera celui dont le règne n'aura point de fin. Et ce même texte est repris par le Seigneur Jésus devant Caïphe, Marc 14, 62, et Matthieu 26, 64. Si vous voulez, nous allons retrouver le texte dans le Nouveau Testament. Marc 14. Jésus devant le Sanhédrin. De nouveau, au verset 61, de nouveau le grand prêtre l'interrogeait et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus dit, « Je le suis, » et la citation de Daniel, « Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchira ses habits et il dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous ? » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Voyez donc que Jésus lui-même s'est identifié avec le Fils de l'homme de la prophétie de Daniel, qui se présente devant le vieillard sur le trône, et à lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Le mystère du Dieu n'ont pas encore les trois personnes, mais déjà et le Père et le Fils apparaissent dans cette prophétie. Alors, que conclure de tous ces passages? Je crois qu'il y a un point commun à tous les passages que nous avons cités depuis la Genèse jusqu'à Daniel. C'est que Dieu est toujours, se manifeste toujours d'une façon mystérieuse qui dépasse notre entendement. Il est toujours l'autre et finalement on ne peut parler de lui que d'une façon négative. C'est-à-dire qu'on peut dire ce que Dieu n'est pas. On ne peut pas dire ce que Dieu est. Les théologiens appellent ça la théologie apophatique. C'est-à-dire, on ne peut dire de Dieu que ce qu'il n'est pas. Et remarquez les préfaces de toutes les liturgies eucharistiques. Il est digne et juste de t'adorer. Et puis, il y a une série d'adjectifs négatifs qui varient selon les liturgies. Soit qui est inaccessible, inconnaissable, infini, pouvez mettre le mot « un » devant tous les adjectifs que vous voulez et l'attribuer à Dieu. Inimaginable, infini, inconnaissable, inaccessible. On ne peut définir Dieu que parce qu'il n'est pas ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Et ça nous échappe. Dieu demeure mystérieux. À la fois infiniment lointain dans son être et infiniment proche dans son amour lorsqu'il se communique à nous. Donc, d'où cette nécessité, en quelque sorte, de faire le vide de toute image. N'est-ce pas, les pères insistent beaucoup, les pères du désert, les grands moines en particulier, pour la prière d'éviter des représentations de Dieu, de nous méfier de notre imagination. De faire le vide. Dieu se manifeste en quelque sorte dans le désert, dans le silence, je dirais presque dans le néant, hein, dans la nuit, où va se faire entendre le doux murmure, dont nous parlait le prophète Élie.